Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Boîte de nuit, nuit de folie, limitée, t'es pas blanc, dégage. Cette semaine, on essaie de sortir danser avec un reportage qui nous emmène dans les discothèques de Munich, dans le sud de l'Allemagne. Et comme vous allez le constater, n'est pas noctambule qui veut. Et puis nous reviendrons aussi sur l'un des plus gros scandales de l'histoire des médias dans l'Allemagne d'après-guerre. Il y a 30 ans, le magazine Stern publiait des extraits du prétendu journal intime d'Adolf Hitler. Un peu comme si demain, vous alliez acheter votre journal et que vous tombiez sur la une de l'hebdomadaire local. Nous avons retrouvé le journal intime de, je vous laisse compléter par le nom du dictateur de votre choix, c'est Constance Wünkotze au micro. Bienvenue à toutes et à tous.
Das ist Affenmusik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Das ist Affenmusik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey!
Faire la fête, c'est en principe permis à tout le monde, pense-t-on en tout cas. Sauf qu'en Allemagne, il arrive régulièrement que des personnes venues d'Afrique subsaharienne ou de pays arabes se plaignent d'être discriminées à l'entrée des discothèques. Alors depuis qu'une nouvelle loi anti-discrimination a été votée en 2006, il y a certes déjà eu plusieurs procès et des clubs ont été condamnés à payer des amendes. Donc on pourrait penser que des progrès ont été faits dans le domaine. Notre correspondante à Munich, Isabelle Hartmann, a voulu savoir si cela était effectivement le cas. Le week-end dernier, elle a fait le tour des clubs de la capitale bavaroise accompagnée de connaissances originaires du Burkina Faso, du Mali, de Turquie et de Chypre. Le résultat a été pire que ce qu'elle avait imaginé. Écoutez son reportage.
2h du matin. Il fait froid, il pleut, et pourtant une lueur d'espoir vient d'apparaître dans la nuit munichoise. Après plusieurs minutes de discussion, le portier d'une petite discothèque du centre-ville vient en effet d'accepter que mes accompagnateurs, de Turquie et de Chypre, entrent dans sa boîte de nuit.
Je ne pense pas que cela vous intéresse ici.
Et pourquoi ?
Vous avez l'air de chercher quelque chose de mieux. Ici, on a un public très jeune, 18 ans environ.
On n'a rien contre.
Vous êtes à deux ? Bon, vous voulez rentrer pour voir si cela vous convient ?
Que les deux jeunes hommes puissent entrer est assez rare pour être signalé. En effet, sur les 25 clubs munichois que nous avons testés, seuls 5 ont accepté d'ouvrir leurs portes aux personnes de couleur qui faisaient partie de notre groupe test. En l'occurrence, un Burkinabé, un Malien, un Turc et un Chypriote. Tous bien habillés et âgés d'une trentaine d'années. Dans 80% des autres cas, ils ont dû rester sur le trottoir, souvent renvoyés, sans grand ménagement ni discussion par les portiers.
On voudrait entrer.
Non.
Et pourquoi ?
Soirée étudiante. Poussez-vous, c'est pas une blague. Allez voir ailleurs.
Amado Dipama, notre testeur du Burkina Faso, est le président du Conseil des étrangers de Munich. Il est atterré par ce qu'il a vécu.
Ce sont toujours les mêmes arguments. Ils disent que c'est une soirée privée ou une soirée étudiante, sans même nous demander si on est étudiant. L'autre argument, c'est que c'est réservé aux habitués.
Le plus souvent, les portiers mentent. Je ne suis ni une habituée, ni une étudiante, je n'ai pas de carte de membre, je n'ai pas réservé. Et pourtant, on me laisse entrer sans problème, de même que les deux autres blancs du groupe, une grecque et un allemand. Lorsque j'ai demandé à plusieurs videurs de m'expliquer cette différence de traitement, j'obtiens des réponses offusquées.
J'essaie de faire mon boulot de manière sympa. Je ne me considère pas comme un raciste. Je ne trie pas les gens, je les fais se rencontrer. C'est une question de feeling. Je veux des gens qui fassent la fête, pas des personnes qui se prennent la tête et font les idiots.
Des personnes noires ou des personnes de type arabe qui ne sont pas accompagnées de blancs ou par des habitués d'un club m'ont paru être constamment cataloguées comme des éléments qui pouvaient poser problème. Du coup, ils étaient priés de passer leur chemin. Qu'un club sur 5 seulement ouvre sa piste de danse aux étrangers qui m'ont accompagné ne veut pas dire qu'ils sont tous des repères de racistes. Pour certaines discothèques, nos testeurs étaient trop bien habillés ou trop âgés par rapport au reste du public. Mais nier la discrimination est impossible. Le son est malheureusement mauvais, mais les propos d'un portier d'origine africaine sont édifiants. Il explique à Amado, du Burkina Faso, Si je te disais pourquoi je ne te laisse pas entrer, je m'insulterais moi-même. Juridiquement, il est difficile de prouver que l'on s'est vu refuser l'entrée en discothèque en raison de son origine ou de sa couleur de peau. Les gérants ont le droit de choisir à qui ils ouvrent leurs portes et peuvent prétexter devant un juge que leur club était bondé, par exemple. Théodora Sismani, avocate et porte-parole du Conseil des étrangers, ne s'avoue pas vaincue pour autant.
Pour notre test, nous avions deux groupes préférents composés de blancs. Ces groupes ont pu rentrer, donc l'excuse de la soirée étudiante ou de la soirée réservée aux habitués ne tient pas debout. C'est la première fois que nous sommes face à une telle constellation. Je vais voir si ces preuves et les citations des videurs sont suffisantes pour porter plainte devant un tribunal.
Le Malien qui nous accompagnait a souhaité rester anonyme pour ce reportage. Au bout de ces deux nuits passées à essuyer des refus, il m'a dit préférer recevoir ses amis chez lui ou aller au restaurant plutôt qu'en boîte de nuit. Et
votre polonais à moi, il passe seulement dans un club polonais. L'existence des différents clubs selon la nationalité est quand même un point d'une parallélisation de la société qui ne parle pas forcément pour l'intégration. Parce que l'intégration aura sûrement lieu quand, je pense, différentes nationalités se retrouveront sous un toit pour faire la fête.
Il y a encore du chemin à faire.
Racisme à l'entrée des boîtes de nuit munichoises, c'était un reportage d'Isabelle Hartmann, notre correspondante dans la capitale bavaroise. Rappelons tout de même que récemment, la justice allemande a donné raison en appel à un étudiant allemand d'origine africaine qui estimait avoir été discriminé dans un train lors d'un contrôle d'identité par deux policiers.
Ich hab dieses Gefühl, das wird ja heute ein Riesending. Das wird die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, hierher sind alle geschwommen. Wir feiern bis zum Ertrinken, bis die Mollusken herkommen. Hebt die Flossen aus dem Wasser, macht den Ozean wach. Dort kriegt die letzte Schnecke aus dem Haus raus und guck mal nach. Guckst du nach, bist du verloren, denn die Party saugt dich auf. Wenn die Kiemen rhythmisch pumpen, kommt sogar ein Hai gut drauf. Der Beat versenkt jedes Schiff, da bleibt keine Planke trocken. Komm, wir rocken!
25 avril 1983, Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, des journalistes du monde entier viennent assister à la conférence de presse donnée par le Stern, magazine à la réputation solide, né après la Seconde Guerre mondiale.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'histoire du Troisième Reich doit être en grande partie réécrite.
Peter Koch est le rédacteur en chef du Stern. Son reporter vedette Gerd Heidemann vient de faire une révélation fracassante. Il a découvert le journal intime d'Adolf Hitler en personne. Des carnets noirs, répartis en 62 tomes et que l'on croyait disparus en 1945 dans un accident d'avion. Des carnets dans lesquels le dictateur aurait consigné entre 1932 et 1945 ses pensées les plus intimes et dont le Stern s'apprête donc à publier des extraits en exclusivité. Un gros coup, tellement gros que l'on se méfie et que certains, notamment des historiens, doutent ouvertement de l'authenticité des documents. Mais la rédaction du Stern s'accroche et déclare qu'elle a fait expertiser avec succès l'écriture de Hitler. Certains journaux étrangers ont même déjà acheté les droits de ce journal. Trois jours plus tard, le 28 avril 1983, Stern publie les premiers extraits du journal. Pour l'occasion, le tirage a été augmenté de 30%, le prix de vente au numéro également. Et ça marche. Les 1,8 million d'exemplaires sont écoulés en deux temps trois mouvements et les lecteurs redécouvrent le dictateur, un homme pour le moins banal si l'on en croit ce qu'il écrit.
Les efforts surhumains de ces derniers temps me causent des ballonnements et Eva me dit que j'ai mauvaise haleine.
Outre ce genre de détails pour le moins appétissants, le style de l'ouvrage est douteux, les erreurs historiques nombreuses. Des maladresses formelles auraient également pu pousser les rédacteurs à se douter qu'il s'agissait d'une manipulation. Le fait, par exemple, que depuis la guerre, personne n'ait évoqué qu'Adolf Hitler ait pu tenir un journal, ni les historiens, ni les proches de l'ancien dictateur nazi. Ensuite, d'un point de vue formel, les initiales qui figurent sur la couverture des carnets noirs ne sont pas les bonnes. Au lieu de AH pour Adolf Hitler, figurent les lettres FH, mais le Stern imagine que le F est tout bonnement l'initiale de Führer. Le magazine ne prend pas non plus garde aux matériaux utilisés, et pourtant il est vite évident que le papier, la colle et l'encre ont été fabriqués après 1945. Le 6 mai 1983, alors que Le Stern prépare déjà un deuxième numéro, coup de tonnerre, la police judiciaire et les archives publiques confirment que les carnets sont des faux et que le magazine s'est fait avoir. À moins que ses responsables, séduits par l'appât du gain, aient préféré rapidement fermer les yeux et croire ce qui les arrangeait. Le faussaire est rapidement identifié. Il s'agit d'un prétendu collectionneur qui répond au nom de Konrad Kujau. Au départ, ce dernier n'avait rédigé que quelques carnets, puis voyant que le journaliste Gerd Heidemann mord à l'hameçon, il s'empresse d'augmenter la production. En 3 ans, il écrit les 62 tomes qu'il réussit à vendre au Stern pour la modique somme de 9,3 millions de marks, soit près de 5 millions d'euros. Konrad Kujau et Gerd Heidemann comparaissent devant la justice en 1985 et sont condamnés à un peu plus de 4 ans de prison pour escroquerie. Les rédacteurs en chef du magazine démissionnent et le Stern est contraint de présenter des excuses publiques. Après ce scandale, les ventes de l'hebdomadaire chutent aussi durablement. Entre-temps, l'affaire du faux journal intime d'Hitler sert d'exemple à ne surtout pas suivre dans les écoles de journalisme. Elle a aussi inspiré un film, Stunk, qui relate cette incroyable histoire de manière satirique. Vous en avez entendu un extrait précédemment. 30 ans plus tard, le Stern a par ailleurs décidé de transmettre les fameux cahiers noirs aux archives nationales allemandes. Le faussaire Konrad Kujau est lui décédé au début des années 2000, non sans avoir falsifié des tableaux, tenté une carrière politique au service du parti des automobilistes et déclaré fièrement
« J'assume tout à fait le titre de maître de falsification. »
Et vous, pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour sur notre site internet pour retrouver le podcast d'Allemagne Magazine, www.dw.de/français, pour nous écrire une seule adresse, français@dw.de. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et tchuss.